demain. Bye bye.
Possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elles les samedis à 12h sur Radio G. Avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Français et Françaises, de toutes origines et de toutes confessions, l'armée vous parle.
L'armée française avait fait le serment solennel de garder l'Algérie dans la souveraineté française. Ce serment, nous venons aujourd'hui, au nom de l'armée, vous le renouveler.
Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un pronunciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité, un groupe d'officiers, partisans, ambitieux et fanatiques.
1961, trois ans après le coup d'état militaire qui a porté De Gaulle au pouvoir en 58, un carteron de généraux français tente un nouveau coup d'état depuis l'Algérie, qui était alors encore française. 60 ans plus tard, dans une tribune de 2021, des militaires, pas tous en retraite, appellent à l'établissement d'un pouvoir fort en France. Un appel, au mieux, entre les lignes, à voter fasciste. Salut, c'est JBD, c'est la voix off. Notre émission d'aujourd'hui pourrait s'intituler « Carteron d'hier et d'aujourd'hui » avec les copains profs d'histoire géo. Salut Philippe.
Bonjour.
Salut Cédric.
Salut.
Salut Daniel.
Bonjour à tous.
Salut André.
Salut amis auditeurs.
Français et Françaises, de toutes origines et de toutes confessions, l'armée vous parle.
Vers la fin du mois d'avril 2021, vous aurez entendu parler de cet appel de militaires en retraite, publié par le journal Valeurs Actuelles. Des militaires appelant à peine ouvertement à ce qu'un homme ou une femme forte arrive à la tête de l'État français pour remettre un petit peu d'ordre dans toute cette chienlit. La date de parution de cet appel n'est pas anodine. C'est un texte qui a été signé par ces militaires en retraite le 21 avril 2021. Double résonance, puisque le 21 avril 2002 voyait le second tour de l'élection présidentielle où Le Pen père est arrivé au deuxième tour.
Silence ! Un instant de silence et de réflexion au milieu de tant de lumière et de tant d'harmonie. Silence !
Et puis surtout, 21 avril 1961, tentative de putsch menée par des militaires de l'armée française depuis l'Algérie, qui alors était un territoire français. L'Algérie de l'époque, c'était la France, c'était trois départements français. C'est une histoire que tu nous as expliquée, André, dans une série que nous avons consacrée au coup d'État de Gaulle. Il vous suffit de taper 1958 dans le moteur de recherche du site Polémix et la voix off pour retrouver cette histoire du coup d'État militaire que De Gaulle commet en 1958. De Gaulle chasse la 4ème République, instaure son régime de monarque présidentiel de la 5ème en 58, avec plus tard l'aval du peuple français. Mais enfin, on le raconte trop peu, De Gaulle arrive quand même au pouvoir sur les épaules des parachutistes. Tu nous expliques tout ça très bien dans cette émission en deux volets hein, sur le coup d'état militaire de De Gaulle qu'on peut retrouver sur le site de notre émission. L'Algérie jusqu'en 1962, c'est la France.
L'Algérie, c'est la France. Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autre autorité que la sienne.
En 1954, il y a un mouvement d'insurrection, j'allais dire algérien. Bon, les Européens d'Algérie de l'époque étaient aussi des Algériens. Alors pour aller vite, on va dire des Arabes, même si c'est pas exact. Mais en tout cas, il y a un mouvement d'insurrection et d'indépendance qui se lance en 1954 à la Toussaint Rouge, menée par le Front de Libération Nationale Algérien. Ce qui fait qu'en 1961, la population des Européens d'Algérie, notamment, est complètement désespérée, ce qui sera très propice à une deuxième tentative de coup d'État. L'armée française qui a contribué à porter De Gaulle au pouvoir en 58 se sent trahie et une partie de cette armée d'Afrique du Nord tente un nouveau putsch en 61, mais qui lui va foirer. De Gaulle d'ailleurs, avec sa verve, qualifiera les gradés qui mènent cette tentative de putsch de
carterons de généraux en retraite.
Les appelés qui en ont ras-le-bol de la guerre d'Algérie ne vont pas suivre ces militaires factieux. Cette tentative de putsch de 61 a fait pchit. Avant de retrouver notre ami Philippe pour une explication du texte des carterons de généraux factieux d'avril 2021, nostalgique du putsch raté d'avril 61, un peu de nostalgie militaro-coloniale et en reggae.
Qu'est-ce qui t'a pris, bordel, de casser la cabane, de se panou-panou, puis sortir ton canif, ouvrir le billet de primitif, qui débarquait de sa savane. Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette fille diaphane contre son gré et sous ses griffes? Des regrets, tu réponds négatif. Mieux encore, tu ricanes.
Nostalgie, sentiment qui a sans doute guidé la plume de carterons de généraux en retraite de 2021. Nostalgie d'une France mythique qui n'a jamais vraiment existé, comme on va le voir maintenant avec Philippe. Alors on parle beaucoup dans cette émission de ce qu'il est poli et mal poli de commémorer. Commune, pas bien. Napoléon, très bien. Ce dernier temps, d'ailleurs, la résistance française contre l'occupant, pas bien, parce que assassin à la solde de Staline. Pétain, Vichy, plutôt pas si mal. Et là, on en arrive en avril 2021, où finalement, les collègues de ce carteron de généraux en retraite, comme disait De Gaulle lors de la tentative de putsch de 1961, eh bien, du fond de leur maison de retraite, des militaires potentiellement factieux ont lancé un appel avec une très grande connivence médiatique, je trouve. On a vraiment beaucoup entendu parler de ces militaires français en retraite qui appellent finalement à un coup d'État, un homme fort pour mettre un petit peu d'ordre dans ce pays. Alors ça, c'est plutôt médiatiquement poli.
Effectivement, donc il y a eu un appel qui est paru dans les colonnes du magazine très à droite Valeurs Actuelles, un appel de généraux à la retraite qui a été signé par un certain nombre d'autres de leurs collègues également à la retraite, certains d'autres en activité. Un article relativement bref. Alors voici comment il se présente.
Français et Françaises, de toutes origines et de toutes confessions, l'armée vous parle.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du gouvernement, Mesdames, Messieurs les parlementaires, l'heure est grave, la France est en péril, plusieurs dangers mortels la menacent. Nous qui, même à la retraite, restons des soldats de France, ne pouvons, dans les circonstances actuelles, demeurer indifférents au sort de notre beau pays. Nos drapeaux tricolores ne sont pas simplement un morceau d'étoffe. Ils symbolisent la tradition, à travers les âges, de ceux qui, quelle que soit leur couleur de peau ou leur confession, ont servi la France et ont donné leur vie pour elle. Sur ces drapeaux, nous trouvons en lettres d'or les mots « honneur » et « patrie ». Or, notre honneur aujourd'hui tient dans la dénonciation du délitement qui frappe notre patrie. Délitement qui, à travers un certain antiracisme, s'affiche dans un seul but, créer sur notre sol un mal-être, voire une haine entre les communautés. Aujourd'hui, certains parlent de racialisme, d'indigénisme et de théorie décoloniale, mais à travers ces termes, c'est la guerre raciale que veulent ces partisans haineux et fanatiques. Ils méprisent notre pays, ses traditions, sa culture et veulent le voir se dissoudre en lui arrachant son passé et son histoire. Ainsi s'en prennent-ils par le biais de statues à d'anciennes gloires militaires et civiles en analysant des propos vieux de plusieurs siècles. Délitement qui, avec l'islamisme et les hordes de banlieue, entraîne le détachement de multiples parcelles de la nation pour les transformer en territoires soumis à des dogmes contraires à notre Constitution. Or, chaque Français, quelle que soit sa croyance ou sa non-croyance, est partout chez lui dans l'Hexagone. Il ne peut et ne doit exister aucune ville, aucun quartier où les lois de la République ne s'appliquent pas. Délitement, car la haine prend le pas sur la fraternité lors de manifestations où le pouvoir utilise les forces de l'ordre comme agent supplétif et bouc émissaire face à des Français en gilets jaunes exprimant leur désespoir. Ceci alors que des individus infiltrés et encagoulés saccagent des commerces et menacent ces mêmes forces de l'ordre. Pourtant, ces dernières ne font qu'appliquer les directives, parfois contradictoires, données par vous, gouvernants. Les périls montent, la violence s'accroît de jour en jour. Qui aurait prédit il y a 10 ans qu'un professeur serait un jour décapité à la sortie de son collège ? Or, nous, serviteurs de la nation, qui avons toujours été prêts à mettre notre peau au bout de notre engagement, comme l'exigeait notre état militaire, ne pouvons être devant de tels agissements des spectateurs passifs. Aussi, ceux qui dirigent notre pays doivent impérativement trouver le courage nécessaire à l'éradication de ces dangers. Pour cela, il suffit souvent d'appliquer sans faiblesse des lois qui existent déjà. N'oubliez pas que, comme nous, une grande majorité de nos concitoyens est excédée par vos louvoiements et vos silences coupables. Comme le disait le cardinal Mercier, primat de Belgique, quand la prudence est partout, le courage n'est nulle part. Alors, mesdames, messieurs, à cet atermoiement, l'heure est grave, le travail est colossal. Ne perdez pas de temps et sachez que nous sommes disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation. Par contre, si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'actifs dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national. On le voit, il n'est plus temps de tergiverser. Sinon, demain, la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant et les morts dont vous porterez la responsabilité se compteront par milliers.
Il y a une signature ?
Oui, une signature de plusieurs généraux qui mettent leur nom et leur ancienne qualité, dont certains sont, comme on dit, 2S, c'est-à-dire en théorie à la retraite, mais qui peuvent être appelés. Bon.
Donc, à l'occasion de cette tribune, le Canard enchaîné avait finement titré « Nous risquons le coup d'EHPAD ».
Quel est le décryptage ? Premier point, dans le texte, le terme « tradition » apparaît deux fois. Lui sont associés les termes « à travers les âges »,« passé », »,« statut », »,« ancienne gloire », »,« vieux de plusieurs siècles », »,« histoire ». La préoccupation des auteurs tend à prolonger et à reproduire le passé plutôt qu'à accepter un monde ouvert aux problèmes actuels, problèmes que de façon révélatrice les généraux n'abordent pas, par exemple l'inégalité sociale, la préservation des ressources naturelles, la protection de l'environnement, la dégradation du climat, toutes questions qui ne peuvent être traitées que de façon globale par coopération internationale. Deuxième point. On peut aussi noter que dans le troisième paragraphe, de façon tout aussi révélatrice, il cite en premier lieu les anciennes gloires militaires avant de citer les anciennes gloires civiles. Ils inversent ainsi le sens des priorités car une société ne peut se donner comme finalité d'être militaire. Sa finalité est d'abord de satisfaire des besoins primaires, donc de produire pour se nourrir, pour se chauffer, puis, une fois ses besoins primaires satisfaits, de se consacrer à des occupations secondaires, mais qui constituent en réalité la finalité de l'être humain et de toute société. L'idéologie, religion, philosophie, science, art, lettres, droit, activités ludiques. En aucun cas, l'armée ou la guerre ne constituent des finalités sauf dans la Prusse du XVIIIe siècle, celle du roi Sergent et du grand Frédéric, dont on disait plaisamment que ce n'était pas un pays qui avait une armée, mais une armée qui avait un pays. Troisième point. On notera que les termes de statut et de ancienne gloire attestent que ces généraux n'ont toujours pas intégré la révolution copernicienne de l'école des annales des années 1930, qui délaissa les individus d'exception, les événements d'ordre politique et militaire, assassinat d'Henri IV, prise de la Bastille, pour se consacrer à l'histoire des masses, des prix, des productions, des manières de vivre, des techniques, du climat, des mentalités, etc. Les généraux de valeur actuelle ne sont toujours pas sortis d'une histoire hiérarchique, événementielle, qui mettait en avant les grands hommes, entre guillemets, les individus d'exception, surtout dans l'ordre politique et militaire, rois, empereurs, généraux, et préparer ainsi les citoyens à les admirer, à les révérer et à leur obéir. Quatrième point. Cette France en péril que les militaires prétendent défendre, ils postulent implicitement que sa définition va de soi. Or, justement, elle ne va pas de soi. La France de Robespierre n'est pas celle de Louis XVIII. La France de Louise Michel n'est pas celle d'Adolphe Thiers. La France de Léon Blum et de Pierre Mendès France n'est pas celle de Charles Maurras et de Pierre Laval. Ces Frances sont antagonistes, antithétiques. Mais cette définition que les militaires laissent de côté, leurs amis de l'extrême droite se chargent de la présenter explicitement et de nous ressortir l'habituel musée Grévin de la droite où cohabitent Vercingétorix, Clovis, Charlemagne, Saint-Louis, François Ier, Henri IV, Louis XIV, Napoléon, les croisades, les conquêtes coloniales et le folklore régional qui constitue le fond de sauce des journaux télévisés de TF1. Cinquièmement, les généraux parlent aussi du drapeau tricolore. Celui-ci, faut-il le rappeler, ne date que de la Révolution. En quoi peut-on être fier de ce qu'il représente ? S'il s'agit d'être fier d'avoir défendu les conquêtes de la Révolution, menacé par les tenants de l'Ancien Régime, aidé par les puissances coalisées, on est d'accord. Mais il n'y a guère qu'à Valmy et lors des mois suivants que la France fut dans une position défensive. Mais très vite, compte tenu des réserves que lui fournit la levée en masse et les talents des nouveaux généraux, la France déborda ses frontières et porta la guerre à l'étranger, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Égypte, en Italie, en Autriche, en Russie, en Espagne. Et là, la France fut dans une posture d'agresseur. Arcole, Rivoli, Austerlitz, Wagram, Iéna, Auerstedt Hello, Friedland, Somosira, la Moscova, autant de batailles livrées à l'extérieur où la France alla attaquer l'ennemi chez lui. Avons-nous lieu d'en être fiers ? Pour le reste, le drapeau français après 1815 ne parut plus avant 1830. Là, il commença par s'illustrer, entre guillemets, dans la conquête de l'Algérie. Celle-ci fut une prédation. De 1830 à 1872, l'Algérie perdit dans les 875 000 âmes, c'est-à-dire morts plus déficit des naissances, sur 3 millions d'habitants. Avons-nous lieu d'en être fiers ? Avons-nous lieu d'être fiers de la guerre de Crimée, 1853-1856, au seul profit géostratégique des Anglais, qui ne perdirent que 22 000 hommes contre 95 000 pour nous ? Et nous brouilla durablement avec les Russes. Tous les ans, la Légion célèbre la bataille de Cameroun, 30 avril 1863, où une soixantaine de soldats français tartaient toute une journée à 2000 Mexicains en leur tuant près de 200 hommes et en leur en blessant 300. Mais avons-nous lieu d'être fiers de l'expédition du Mexique, au cours de laquelle eut lieu Cameroun, où pendant 6 ans, la France perdit beaucoup d'argent et beaucoup d'hommes en tentant d'imposer aux Mexicains un empereur fantoche, Maximilien de Habsbourg, qui finit fusillé. Avons-nous lieu d'être fiers du drapeau français pendant la guerre de 1870 ? En effet, cette guerre n'était absolument pas vitale pour la France. La France alla déclarer la guerre à un pays qui ne lui demandait rien, en ayant eu un état d'impréparation scandaleux. Lors de cette guerre, les militaires ne remportèrent que de minces succès tactiques et la France perdit l'Alsace, la Moselle et dut payer 5 milliards de francs hors d'indemnité de guerre. Avons-nous lieu d'en être fiers ? Avons-nous lieu d'être fiers de toutes les expéditions coloniales subséquentes de 1870 à 1914 où nous allâmes asservir des peuples qui ne nous demandaient rien ? Avons-nous lieu d'être fiers du drapeau français brandi par le régime de Pétain ? Avons-nous lieu d'être fiers du drapeau français lorsque celui-ci couvrit nos opérations de répression des luttes d'indépendance des Vietnamiens, des Malgaches, des Camerounais ou des Algériens ? La fierté des trois couleurs n'est légitime que sous bénéfice d'inventaire. Les généraux parlent de communauté, mais celle-ci n'existe pas. Nous ne sommes pas aux États-Unis. Elle n'existe pas pour l'immense majorité de la population française, dont le nombre et le genre de vie sont tellement dominants qu'elle n'a pas le sentiment de n'être qu'une communauté parmi d'autres, à l'égal de ses autres. Il n'est même probable que ses autres, y compris celles de confession musulmane, parce qu'on sent bien que c'est elle qui est visée au premier chef, se sentent françaises au même titre. On peut d'ailleurs se demander si ce terme de communauté n'a pas dans l'esprit des généraux valeur de prophétie auto-réalisatrice pour instiller le sentiment de menace, de repli sur soi au sein de la population majoritaire, l'extrême droite dirait de souche, et amener celle-ci à adopter une position hostile à l'égard des populations musulmanes, voire issues du tiers-monde, et réciproquement à susciter chez ces populations les mêmes comportements dans une politique visant délibérément au pire. Les généraux grossissent à dessein la menace terroriste, comme si les gens qu'ils ciblent avaient le même pouvoir, la même influence que les talibans d'Afghanistan qui tiennent l'essentiel du pays et qui, une fois les Américains partis, regagneront très probablement les positions d'avant 2001. Or, cela n'est guère concevable. Pour prendre le pouvoir, il faut disposer de ressources humaines ou, à défaut, économiques, sociales, financières, culturelles, médiatiques, etc. Les coups d'État militaires ont réussi en Espagne en 1936 et au Chili en 1973, parce que la bourgeoisie locale leur prêtait un solide appui. Mais de quoi disposent les djihadistes en France? De quels journaux? De quelles chaînes de télévision? De quelles banques? De quelles entreprises? De quels relais dans l'armée, dans la gendarmerie, la police, dans les services de renseignement, dans la magistrature, dans les institutions culturelles? Les généraux, pour désigner l'ennemi, emploient un vocabulaire vague. Certains, ses partisans, les hordes de banlieue ou bien les individus. On a le sentiment qu'au-delà d'une petite minorité d'individus radicalisés, les généraux français frappent de suspicion toute une communauté plutôt que de faire un travail de ciblage fin, plutôt que de chercher les raisons sociales, psychologiques, collectives du malaise des populations issues du Sud et d'y remédier par des mesures économiques ou législatives, l'intention des généraux étant de frapper en masse lesdites populations, ces pelées, ces galeuses, d'où nous vient tout le mal, sans faire de détails, comme si un chirurgien, pour soigner un ongle incarné, n'avait pour thérapie que l'amputation de la jambe.
Dans les ennemis désignés par le texte dans Valeurs Actuelles, là oui, il y a les vilains arabes, on a bien compris, mais il y a aussi la vilaine ultra-gauche masquée, l'islamo-gauchisme.
J'y viens. En outre, parmi les partisans de la cancel culture, c'est-à-dire ceux qui veulent voir disparaître des noms de rue ou des statues et que vise l'appel des généraux, on trouve non seulement des citoyens musulmans qui veulent voir disparaître par exemple les noms des rues Buchot, mais aussi des citoyens originaires des départements d'outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane, qui ne sont majoritairement pas musulmans, mais qui veulent voir disparaître le souvenir de l'ancien esclavage d'avant 1848. Or, les uns et les autres n'ont rien à voir les uns avec les autres, sauf leur aspect qui les fait tous apparaître comme des, entre guillemets, basanés. C'est pourquoi d'ailleurs, les jeunes originaires des DOM sont victimes de contrôles aux faciès comme les jeunes d'origine maghrébine. La suspicion jetée sur les uns et les autres n'a comme point commun que le racisme. Pour appuyer leur dire, les généraux citent un mot du cardinal Mercier, primat de Belgique, de 1906 à 1926. Pourquoi ne pas avoir choisi le mot d'un Français célèbre? Pourquoi avoir choisi le propos d'un prélat étranger remontant à un siècle? Les généraux mettent en garde en feignant de le redouter, voire de le déplorer, contre le risque de guerre civile et des milliers de morts subséquents. En théorie, ces morts devraient être répartis à peu près également entre les deux camps. En réalité, les généraux savent qu'il n'en serait rien, car la disproportion des forces est telle que les massacrés ne se trouveraient que d'un seul côté, les populations basanées, originaires des pays musulmans, des pays d'Afrique, des DOM. Qu'y a-t-il derrière cet appel des généraux? Que révèle-t-il? Beaucoup de frustration de l'extrême droite, qui a d'ailleurs applaudi à l'appel des généraux. D'abord, la frustration des coups d'État ou des velléités de coups d'État manqués. Celui du général Boulanger, janvier 1889, le coup d'État des ligues d'extrême droite, le 6 février 1934, celui des généraux d'Alger, du 21 au 26 avril 1961, mais aussi, beaucoup plus récemment, le coup d'État manqué du 6 janvier 2021 contre le Capitole de Washington, tenté à l'instigation de l'histrion de la Maison-Blanche. Coup d'État qui, cependant, s'acheva en pantalonnade, avec quand même 5 morts à la clé, car l'apprenti putschiste, toujours en fonction à ce moment-là, n'osa pas en assumer la responsabilité et recula devant l'obstacle. Ces coups d'État eurent cela en commun qu'ils échouèrent la plupart du temps piteusement. Par manque de préparation, par manque de résolution, par manque de vue claire, par manque d'appuis sociaux, par débilité de l'analyse politique, ou par couardise, comme avec Donald Trump au début de cette année. Or, s'il est des situations que les turiféraires de l'extrême droite ne pardonnent jamais à la gauche, c'est d'avoir été surpris en situation ridicule avec le pantalon sur les chevilles. Ensuite, la frustration sociétale. Il faut se dire que depuis 1944, L'extrême droite a avalé toutes les couleuvres, l'épuration, les procès des collaborateurs, les guerres coloniales perdues, Indochine, Algérie, la transformation de la société française par l'immigration, la déchristianisation, le Concile Vatican II. Plus toutes les transformations sociétales depuis les années 1960. L'autorisation de la contraception, de l'IVG, l'émancipation des femmes, l'abolition de la peine de mort, la dépénalisation de l'homosexualité et la pénalisation concomitante de l'homophobie, la pénalisation du racisme, la féminisation, le mariage gay, la pénétration des cultures étrangères, la construction européenne, etc. Il n'y a pas une seule évolution de la société depuis 1944 et plus encore depuis 1968 qui n'apparaisse à l'extrême droite comme contraire à toutes ces valeurs. Elle se retrouve dans la même situation que son homologue d'entre 1871 et 1914, après avoir vu la consolidation de la République par l'amendement Vallon en 1875, l'acceptation du nouveau régime par le pape Léon XIII, l'instauration de l'école laïque, la loi de séparation des églises et des États en 1905, la révision du procès Dreyfus, etc. Je ne sais si tous les généraux signataires de l'appel ont en tête l'évolution de la société française sous la Troisième République, mais je pense qu'ils envisagent l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen en 2022 comme une hypothèse réaliste. Et après les échecs des Le Pen père et fille aux présidentielles de 2002 et de 2017, on peut se demander si la perspective d'une victoire de la même Le Pen en 2022 ne leur apparaîtrait pas, à l'instar de certains, entre guillemets, en juillet 1940, comme une divine surprise. Il s'est écoulé 76 ans depuis la fin de la dernière guerre, ce qui représente un laps de temps comparable à celui qui s'écoula de septembre 1870 à juillet 1940, 70 ans, et qui, pour l'extrême droite française, vit le surgissement de la Gueuse. La Gueuse, le nom qui était donné à la République. On comprend que certains piaffent d'impatience à l'idée d'une nouvelle divine surprise.
Il s'en passe des choses sous ton crâne, rasé. C'est plein de tristesse et de kiff. Tu te vois encore en tenue léopard, bourré d'explosifs. Sauter de ton aéroplane.
La nostalgie comme un roi. 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 Comme un roi. Comme un roi. Comme un roi.
De la bourgeoisie versaillaise qui fit massacrer la commune en 1871, la grande bourgeoisie française de 2021 aurait-elle besoin d'un régime encore plus fascisant que celui que nous connaissons déjà ? Pour écraser les gens, les monarques présidentiels de la Ve République disposent déjà de toute une batterie de lois scélérates et peuvent d'ailleurs encore en créer d'autres. Mais évoquons quand même l'hypothèse d'un coup d'état militaire en France avec André.
Alors, nous échangeons sur les risques possibles de l'arrivée de la droite nationaliste au pouvoir dans notre pays, mais je voudrais poser une question, les risques d'un régime autoritaire, pour qui ? Certes, pour les gens désignés plus ou moins clairement, les Arabes de banlieue, les islamo-gauchistes, mais aussi, certainement, risque pour l'ensemble des citoyens militants ou sympathisants de gauche, les dirigeants syndicalistes, la gauche, digne de ce nom, bien sûr, évidemment, hein. Et vous imaginez pas que Hollande va aller en camp de concentration, hein. Rappelons-nous des années 40-44. C'est utile. Après tout, ces gens sont des fils de Pétain.
Français, vous avez vraiment la mémoire courte.
Le régime de Vichy, donc du maréchal Pétain, désignait ses ennemis dans ses discours, essentiellement les juifs, les francs-maçons. Mais autant que ces derniers, les principales victimes de ce régime criminel, ça a été les militants communistes et cégétistes. Bien sûr, il y a eu aussi des gaullistes, des démocrates, des humanistes, de nombreux chrétiens militants, témoignages chrétiens, etc. Mais quand même, majoritairement, la chasse, elle a été faite et elle a été ouverte aux militants cégétistes et communistes. Je ne veux pas dire qu'il y a qu'eux qui ont été victimes, mais je dis qu'ils ont été massivement victimes. Ça a été une chasse aux communistes. Il s'agissait de couper à la base le Front populaire et tout ce que ça évoquait pour la bourgeoisie française. Combien furent fusillés, déportés? Combien furent assassinés de ces gens qui étaient souvent des gens modestes, des ouvriers? Ceux qui ont été le plus fidèles à la France, à la patrie et à la liberté, ça a été les ouvriers. Ça a été les ouvriers massivement. Je voudrais quand même rappeler, je sais que c'est un peu personnel, mais enfin, mon père Camille, ouvrier ajusteur, fut arrêté avec plusieurs de ses camarades au début de 1944 par des gendarmes français, renseignés par un commissaire de police. Il faisait partie d'un réseau de sabotage de cheminots, communistes pour la plupart, du côté de Nevers. Livré par la justice française aux autorités allemandes, il devait passer un an, d'avril 1944 jusqu'à mai 1945, dans divers camps de concentration allemands, Auschwitz, où il a eu un joli tatouage, puis Buchenwald, Dora, puis Mauthausen, où il a été libéré par l'armée américaine. Il pesait 38 kilos. Bon, il faisait partie de ces milliers qui n'étaient ni juifs, ni francs-maçons, ni hommes politiques importants, qui étaient de modestes militants ouvriers, qui ont été arrêtés, déportés. Donc beaucoup n'en sont pas sortis. Donc nous sommes des Cassandres, mais nous avons de bonnes raisons de nous sentir inquiets. L'arrivée d'un régime selon les vœux de l'extrême droite en France ne se traduirait sans doute pas par une plus grande souveraineté de la nation française vis-à-vis de l'OTAN et de l'Union européenne, malgré tout ce que peut dire la mère Le Pen, etc., et ces gens-là sur l'indépendance de la France, etc. Ces gens ne dénonceront certainement pas ni l'alliance avec notre maître américain, notre dépendance à l'égard du maître militaire américain, ni notre totale dépendance vis-à-vis des institutions européennes de Bruxelles. On ne peut pas non plus penser que, malgré tout ce qu'elle peut dire, la mère Le Pen va procéder au départ massif de populations jugées indésirables, renvoyées chez eux par charter entier, etc., etc. Ça, c'est bon pour faire voter les imbéciles. En réalité, il est impossible de penser au départ de ces gens installés en France, et c'est heureux parce que nous nous y opposerions de la façon la plus ferme. De même, on ne peut pas s'attendre à une politique sociale favorable aux travailleurs et aux pauvres, aux gens modestes, etc., etc., ni une politique du logement. On ne voit pas l'extrême droite faire une politique, sauf éventuellement une politique de charité, comme sous Pétain, où les dames de la bourgeoisie filaient leurs vieilles culottes aux ouvriers, etc. Enfin, on connaît ça, quoi. En revanche, ce dont on peut être sûr, c'est que ce serait une muselière et le cachot pour tous les militants de gauche et les militants progressistes. Alors, vous avez entendu ce qui a été dit par le carteron de vieux militaires là, le 21 avril dernier. Il existe des lois en France qui permettent d'embastiller les emmerdeurs. Donc il y a déjà, sous Macron, le grand démocrate, il y a déjà des lois policières qui permettent d'arrêter les gens et de les conduire au cachot, c'est-à-dire de museler entièrement l'opposition, considérée comme soit terroriste, soit violente, soit... Enfin, bref, on peut toujours trouver un prétexte. Déjà, on contrôle la presse, mais en plus, si on peut mettre les gens au cachot, ce serait quelque chose de plus favorable encore. Donc, je dis très haut, le risque d'un régime autoritaire en France, ceux qui l'encourent en premier lieu, ce sont tous les opposants au système, tous les gens qui, d'une manière ou d'une autre, militent, parlent, disent, s'agitent pour s'opposer au régime actuel et à la politique actuelle. En fait, c'est toujours ce qui se passe, c'est la fameuse histoire du talon de fer, du nom du roman de Jack London, où la bourgeoisie, au bout d'un moment, les milieux dirigeants, incapables de juguler le mouvement ouvrier, le mouvement d'opposition, décident d'employer la violence. Il écrit ce texte-là avant le fascisme. C'est ça qui est intéressant. Jack London est un socialiste américain. Il écrit ce roman, qui est une préfiguration des régimes fascistes en Europe dans les années 20 et 30. Il écrit ce texte-là donc avant 1914. C'est très prémonitoire. «
Cédric.
Oui, et ce qui est inquiétant, au-delà des propos outrés, effectivement, d'un Carteron de généraux en retraite, c'est un certain nombre d'enquêtes, d'opinions. Alors bon, les sondages, ça vaut ce que ça vaut. On sait bien que c'est bon, faut toujours prendre ça avec des pincettes. Mais a priori, alors est-ce que les Français sont véritablement au courant de tout ce qu'il y a dans cette tribune? Mais 73% des gens interrogés soutenaient largement ou assez largement les propos qui étaient tenus. Et là, on a quelque chose d'inquiétant dans le sens où on voit des formes de radicalisation de la population qui effectivement peuvent laisser craindre une montée en puissance de l'extrême droite jusqu'à son arrivée potentielle au pouvoir, de façon légale.
C'est pas super optimiste, hein.
Oui, non, mais c'est ce qu'on entend beaucoup de gens dire, et pas que des jeunes. Ah, on a essayé la gauche, on a essayé la droite, puisque Hollande a fait la même politique que Sarkozy. Donc, comme on n'enseigne pas l'histoire de France et notamment pas la réalité de ce qui s'est passé entre 40 et 44, plein de gens se disent, eh ben, on va essayer un truc nouveau, qui a jamais été essayé en France, comme un régime autoritaire.
Français, vous avez vraiment la mémoire courte.
On tombe sur une conséquence de la casse et du non-enseignement de l'histoire, malgré le courage de petits soldats de la République dans votre genre qui font ce qu'ils peuvent avec leurs petits bras. Philippe.
J'ai vu un décryptage de ce sondage. D'abord qu'ils disaient, c'était pas seulement 13, c'était 58%, ce qui est pas mal, hein. 58%, il n'y a aucun président de la République qui est élu avec des scores pareils. Mais les conditions de réalisation de ce sondage, parce que souvent, les questions induisent les réponses. Pensez-vous que la situation est dramatique ? C'est une certaine façon de poser la question qui induit automatiquement la réponse. Alors, ce qui m'inquiète, même si je pense qu'il n'y a pas 58%, ça rencontre un écho beaucoup plus profond, beaucoup plus large que ce qu'on pourrait espérer d'un pays démocratique. Bon, mais c'est aussi une prophétie autoréalisatrice. La société peut être extrêmement versatile. Regarde, De Gaulle, la majorité de De Gaulle a été reconduite à la fin du mois de juin 1968. Hein. Pouvait-on imaginer que moins d'un an plus tard, ce même De Gaulle serait chassé par une partie de la bourgeoisie au pouvoir? Et surtout, les gens d'extrême droite les plus lucides qui disaient... Politiquement, 1968, ça a été un triomphe pour la droite. Mais par la suite, tout ce qui s'est fait de façon sociétale dans les années suivantes et jusqu'à aujourd'hui, c'était le triomphe de toutes les idées de 68. Je veux dire, les gens de droite les plus lucides se rendent bien compte que d'un point de vue des idées, la droite, en 1968, elle a perdu. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de politiciens de droite, comme Sarkozy ou Laurent Wauquiez, dont le programme, c'est « il nous faut faire un contre-mai 68 ». Ils se rendent bien compte que depuis plus de 50 ans, il y a quelque chose qui était contre eux. Néanmoins, je te rejoins, Cédric, sur l'idée qu'il y a un trop grand nombre de gens qui sont favorables à ça, et paraît-il, d'après un sondage récent, une très grande partie des services de police, de l'armée et de la gendarmerie seront prêts à voter Marine Le Pen au premier tour des présidentielles de l'année prochaine.
André ?
Oui, mais on aurait tort de faire un parallèle trop étroit avec la situation après 1968, car la société a énormément changé. Il y a eu des bouleversements économiques et sociaux considérable. La situation présente aujourd'hui, et c'est elle qu'il faut examiner. C'est pas celle d'il y a 20 ans ou celle d'il y a 40 ans, etc. C'est pas moi qui vous dirais qu'il faut se passer des enseignements du passé, mais malgré tout, il y a des choses qui sont sans précédent. D'abord, il y a une crise sociale gravissime. Il y a toute une partie de la population qui est plongée dans la misère, dans la pauvreté. Il y a un chômage massif. Il y a toute une partie de la jeunesse qui est sans perspective, sans avenir. D'ailleurs, il se trouve que le vote majoritaire dans la jeunesse, pour les gens qui peuvent voter, bien sûr, c'est le vote d'extrême droite. Je crois que c'est 18-19% de ces tranches d'âge votent Le Pen. Il y a un vote du désespoir, en quelque sorte. Il faut en tenir compte. Et puis, il y a un vote de la peur. La peur. Le grand parti en France, c'est le parti de la pétoche. Qu'est-ce qui vote? Ce sont des, ce qu'on appelle les classes moyennes de façon très imprécise. Hein. On a déjà fait la critique de ce terme, classe moyenne. Mais enfin, bon, ce sont des gens qui sont ni dans la bourgeoisie, ni dans le prolétariat misérable. Hein. Bon, c'est ça la majorité. Et ces gens, ils craignent pour leur pavillon de banlieue, ils craignent pour leur retraite, ils craignent pour leur pension, pour leurs économies, etc. Si des aventuriers de l'extrême droite se lancent dans un truc, et pour rassurer ces gens-là, ils marcheront. Alors c'est vrai que là-dessus, il y a aussi une grande ignorance, une inculture politique accablante. Hein. En France, la plupart des gens, l'histoire leur cause pas, l'histoire même d'il y a 20 ans, ils se souviennent même plus. Toi. On est en train de faire une commémoration de l'élection de Mitterrand, etc. Mais enfin, pour beaucoup de gens d'aujourd'hui, c'est un passé dont ils ignorent l'essentiel, sauf quelques images folkloriques comme ça, mais ils en ignorent tout. Et les étiquettes politiques ont valsé. Et puis on se retrouve en face d'une situation aussi également sans précédent, où on a un éclatement et un anéantissement de la gauche. Une division très profonde de la gauche sur les objectifs, sur les programmes, des trucs comme ça. Ça, c'est une chose sans précédent. Et là, je pense que la conjoncture est extrêmement favorable pour une aventure politique. Alors, ces gens-là sont assez habiles pour essayer de masquer leur coup. Leur arrivée au pouvoir avec des oripeaux, un déguisement de légalisme, de constitutionnalité, de démocratie, etc. T'sais, on peut étouffer la démocratie au nom de la démocratie. Hein. C'est très facile. Hein. Et moi, je suis très inquiet et je pense que l'analyse qui vient d'être faite par Philippe, elle incline à la crainte. Alors, tu vas me dire qu'on rejoint le grand parti de la pétoche, c'est pas tout à fait la même crainte. Hein. Mais il est évident que les solutions sont des solutions sociales, économiques, etc. Mais la grande bourgeoisie au pouvoir, pour se dispenser de faire ces réformes économiques qui leur seraient pas favorables, sont prêts à n'importe quelle aventure. Moi, j'ai toujours dit qu'ils avaient plusieurs fers au feu. Hein. Ils avaient la droite traditionnelle, Plomb-Plomb, Fillon, etc. Hein, Chirac, enfin, bon. Et puis, ils ont la social-démocratie qui fait une politique libérale, etc. Et puis, quand tout ça a foiré, qu'est-ce qui reste? Ils vont pas prôner la révolution. Ils vont soutenir un gouvernement conservateur parce que l'extrême droite va être conservatrice sur le plan économique, social. Elle a les mêmes programmes. Hein. Faut pas que les ouvriers s'attendent à avoir une politique favorable au bas salaire, au SMIC, etc. avec l'extrême droite. C'est impensable. Mais en fait, l'exaspération est telle qu'ils sont prêts à voter. Bon, je pense qu'il y aura un gros vote. Ils annoncent plus ou moins 37% des voix pour Mariani, je crois, dans la région PACA. Au premier tour, enfin, ça veut dire que bon, c'est dans la poche, quoi, en quelque sorte. Hein. Alors certes, la région PACA, même si on est une seule nation avec les mêmes sénats, il y a quand même bon des éléments qui favorisent l'extrême droite dans la région PACA, mais c'est quand même extrêmement inquiétant. Alors, pour l'instant, effectivement, il a raison, Philippe, ni les organisations, ni les réseaux, ni les appuis, mais ça peut s'organiser, ça. Hein. Effectivement, il y a dans la police, il y a dans les forces de l'ordre, dans l'armée, dans la haute administration, assez de complices pour faire réussir un truc comme ça. Alors, de quelle manière ça peut se faire à l'occasion d'une élection, ça peut se faire à l'occasion d'un événement gravissime? Une chose est certaine, en tout cas, c'est que cette situation, je parle pas de la situation sociale et économique, mais la situation de l'opinion publique, en quelque sorte, elle était très très largement fabriqué par les médias. Regarde un peu la façon dont est traitée actuellement l'actualité de l'assassinat d'un policier, de tous les crimes qui sont certes des choses dramatiques et graves, mais qui ne valent pas, si tu veux, le traitement médiatique épouvantable qui est mené actuellement, où on cherche à faire peur aux gens, à leur faire croire qu'on tire les policiers comme des lapins à chaque coin de rue. C'est absolument faux, quoi. Quelles sont les armes de ces petits voyous-là? En deux jours, ils sont arrêtés, hein. Quand la police fait son travail, ces gens-là sont arrêtés, sont déférés devant un tribunal et sont condamnés. Quant aux quartiers hors contrôle, les trucs comme ça, bon, les quartiers sont des quartiers pauvres. Les États-Unis ont connu régulièrement et connaissent encore le même problème de liaison entre la délinquance, la drogue et la dégradation de la société, l'appauvrissement des gens, etc. On le sait bien. Où se recrutent les trafiquants? Dans quel milieu se recrutent les trafiquants et pourquoi? Tout ça est connu, il faut le traiter. On ne le traite pas évidemment avec un bataillon de fusiliers marins, hein, c'est certain. Mais enfin, je suis inquiet, ouais. Et qu'on a raison de l'être.
Bah, tu l'es, enfin, ce que tu dis là, André, c'est ce que tu dis à ce micro depuis qu'on fait de la radio ensemble, depuis 2003. Oui, on est inquiet, enfin, on n'est pas plus inquiet qu'il y a 20 ans, et on n'est pas surpris non plus. Cédric.
Mais pour résoudre les multiples facteurs de crise auxquels nous sommes confrontés, faut-il que le pouvoir politique ait deux choses, de l'imagination et du courage. Or, l'imagination, c'est par exemple, effectivement, comprendre que la question de la prohibition sur la question des stupéfiants est un échec. Tous les spécialistes sérieux qui travaillent sur la question voient bien que la politique de prohibition, comme ça a été le cas sur l'alcool dans les années 30 aux États-Unis, n'est pas tenable. Sauf que quand Emmanuel Macron a annoncé un grand débat sur la question des drogues, il en a tout de suite donné la conclusion en disant « Mais de toute façon, il n'y aura ni légalisation ni dépénalisation. On va faire un débat, mais je vous donne la fin. » Et là, on voit qu'on s'interdit des solutions courageuses, d'imagination, de débat, d'ailleurs qui traversent le spectre politique. J'ai entendu des gens de droite qui parlaient de dépénalisation, de réflexion.
De toutes les taxes qu'on pourrait lever là-dessus. Ouais,
mais dès qu'ils arrivent au pouvoir, même les gens qui étaient favorables ne le sont plus. Et là, tout de suite, ça bloque. Et aussi le courage... Et la finesse d'analyse, de voir que, par exemple, la violence islamiste, qui existe, elle est là. Il y a des gens fanatisés et dangereux. Leur violence est la preuve de leur impuissance et de leur isolement. Ce sont des gens qui sont isolés, qui n'ont pas de réelle prise sur les populations qu'ils visent, à savoir les populations pauvres, issues à une ou deux générations de l'immigration. Et ils sont isolés, et la violence est un geste désespéré, parce qu'ils n'ont pas de réelle prise sur la société. Et ces gens-là, effectivement, vont commettre des actes ignobles pour choquer l'opinion publique et pour que la communauté nationale tombe dans le piège de la division, de la peur et de l'affrontement. Et c'est ce qu'ils cherchent, tout compte fait. Parce qu'ils savent que, légalement parlant, par la conviction, en essayant de convaincre les gens, ils n'y arrivent pas. Et donc, ils sont portés à cette extrémité d'ultra-violence. Et ils nous tendent un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et aussi, l'idée, c'est... d'avoir le courage, en tant que dirigeant politique, de dénoncer et d'éradiquer en profondeur les soutiens logistiques dont bénéficient ces gens-là. Qui viennent de qui ? Des amis qataris, des filières turques de financement d'Erdogan. Sauf que là, on voit encore qu'il y a un manque de courage politique pour dénoncer ces réseaux-là, qui sont là des réseaux réels de financement, d'appui logistique vis-à-vis de ce genre de mouvement.
Il faudrait se fâcher avec des gens qui nous refourquent du pétrole pas trop cher et qui nous achètent plein d'armes. Tu voudrais qu'on se fâche avec la clientèle, Cédric ? Alors, je tiens à rappeler que Cédric, comme vous d'ailleurs, les amis, est professeur d'histoire-géographie, collègue d'un certain Samuel Paty. Hein. Donc, quand tu nous dis qu'il faut pas avoir peur, tu sais bien d'où tu nous parles, quoi.
Oui, en plus, Samuel, je le connaissais. Mais bon.
Tu connaissais Samuel Paty ?
Oui, quand on est professeur en TZR, en titulaire de zone de remplacement en banlieue parisienne en début de carrière, on bouge beaucoup. Et j'avais la chance d'être 2 ans avec Samuel au lycée Pierre de Coubertin à Meaux. J'en garde un souvenir encore plus ému.
Donc voilà, entendez bien la chose les amis, quand Cédric, professeur d'histoire-géographie, nous dit « Bon, arrêtez d'avoir la trouille et essayez plutôt de réfléchir », tu nous parles pas de n'importe où.
Que faut-il faire ? Là, c'est une question beaucoup plus large, beaucoup plus difficile. C'est pas un petit groupe de personnes comme nous, bien au courant, bien lucides, de dire comment les citoyens doivent s'organiser, ce qu'ils doivent faire pour s'opposer à ce qui semble être une évolution presque inéluctable. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien et je crois que, pour l'instant, nous sommes dans le coltard. Regardez dans quel état se trouve la gauche aujourd'hui, incapable de s'entendre sur un programme, incapable de s'entendre sur une politique, sur un discours, etc. C'est ça le plus grave. C'est pas tellement le manque de bonhommes. Il y a toujours trop d'hommes ou de femmes qui veulent se présenter au pouvoir. Hein. Et puis il n'y a pas de sauveur suprême. Hein. Comme dirait l'Internationale, il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun, producteur, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun. Hein, bon. En fait, c'est aux gens eux-mêmes, aux citoyens eux-mêmes, de s'organiser. Et pour ça, il faut des organisations. Il faut qu'il y ait des partis politiques capables de s'opposer à ça. Alors, jusqu'aux années 1968-70, il existait un fort parti communiste, bien organisé, avec des militants, avec des relais, avec une philosophie de combat et qui avaient des chances de s'opposer à l'établissement d'un régime d'extrême droite, d'un régime autoritaire comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Vous imaginez bien que ce n'est pas les écologistes ou les féministes ou les sociodémocrates avec leurs petits bras qui vont s'opposer à un régime comme ça. Il faut une organisation révolutionnaire, authentiquement révolutionnaire, non seulement avec une pensée, une analyse, etc., et une grande lucidité sur la situation, mais également des gens capables de prendre des dispositions par de multiples façons. Je n'ai pas à faire un manuel de la résistance politique face à un régime totalitaire, mais il existe des moyens, car après tout, les travailleurs sont beaucoup plus nombreux que les fascistes. Beaucoup, beaucoup plus nombreux. Et moi, je compte beaucoup sur les travailleurs organisés pour s'opposer à un régime comme ça, parce que je vois pas les bibliothécaires et les archivistes, pas plus que les enseignants, faire un front capable d'empêcher un régime comme ça de se développer en France. Je suis pessimiste, mais je pense qu'il y a des solutions. Je crois que nous sommes au fond de la vague. Il faudrait que les citoyens français donnent un grand coup de talon pour remonter à la surface. Parce que pour l'instant, nous ne voyons pas beaucoup de perspectives. Si des gens ont l'insolence, des militaires ont l'insolence de produire un texte comme ça, c'est qu'ils savent que l'opinion publique soit est anesthésiée, soit est avec eux. Il y a une part trop importante de l'opinion publique qui est soit favorable, soit indifférente, mais pas opposée à ça. À partir de ce moment-là, tout est possible. Comment voulez-vous avoir une opposition résolue des gens dans la rue, l'arrêt des chemins de fer, de l'électricité, des comités de résistance, etc., si la très grosse majorité des gens est anesthésiée? D'ailleurs, en 1940, lorsque s'installe le régime autoritaire et criminel de Vichy, la plupart des gens sont assommés par la défaite, désorganisés. Les communistes sont pourchassés, ceux qui restent du Parti communiste est dans la clandestinité, etc. Et il n'y a pas de réaction. Il y a une ou deux manifestations. La première grande manifestation de résistance a été la grève des mineurs du Nord-Pas-de-Calais. Les mineurs ont fait grève, au risque de leur vie. Je vous signale qu'à l'époque, on attrapait les gens, on les collait contre le mur et on 12 balles. C'est comme ça. Donc le premier acte courageux de résistance, c'était eux, bien avant les gaullistes. Et puis aussi une poignée d'étudiants qui, le 14 juillet 1940, ont manifesté avec deux canapèches de Gaulle, deux canapèches sur les épaules, etc. Mais c'était peu de gens, héroïques certes, mais peu nombreux. Il a fallu attendre un petit moment avant que l'opinion publique, anesthésiée, assommée et enfumée par la propagande pétainiste, se reprenne, 2-3 ans. Et là, ensuite, après, bon, là, la résistance n'est plus devenue que des groupes minoritaires. Est devenu quelque chose de sérieux, et avec l'appui d'une partie importante du peuple, quoi, des citoyens, a pu finir par vaincre ce régime. Si je suis pessimiste quant à la possibilité de l'accession au pouvoir de ces gens-là, je pense en revanche qu'une résistance est possible quelques années après. Il va falloir que ça fasse mal. C'est malheureux, c'est comme ça, il va falloir que ça fasse mal pour que les gens se disent « Ah non, quand même, ça a bon dos la lutte contre les Arabes, etc. » Mais à quel prix le sacrifice de nos libertés? Pessimiste, tempéré d'optimisme que j'ai en quelque sorte.
Voilà les amis, c'est ici que s'achève cette discussion mal polie avec les copains profs d'histoire géo, qu'on remercie bien. Tu peux réécouter cette conversation et bien d'autres émissions sur notre site, polemix-et-la-voix-off.com, site doté d'un moteur de recherche dans lequel tu peux par exemple taper « guerre d'Algérie » ou des dates comme 1958 ou 1961, et tu trouveras plein d'émissions à ce sujet. En attendant, on se retrouve très bientôt sur cette même antenne. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
Terminé. Les petits causes alternatives doivent s'arrêter maintenant.
Radio G. 105 FM. Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr.
L'argent de la résine, je pars au Brésil. Tu connais le négro. Fougère, la maille.
Arrêtez ça là, arrêtez ça là, ça là. Regardez les sommes qu'on mise, minimum scalap. J'ai mis la gasoline, j'en mets en balade.
Balade, ok.
J'ai quelques gars solides, le reste des salopes.
Salopes, ouais.
On vise les lombaires, on vise les lombaires. Dis pas t'es fauché, anticipe ton père, impossible qu'on perd. Donne la somme tu dois, personne ne tue toi. Je la rafale du toit, je fais pas de tuto, j'en abats tout terre. Bip, bip, 2 grammes par sachet, on va se fâcher. Rara se cacher, champ à la